Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 3, les versets 1 à 7. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Alors, notre Dieu, nous venons de ta présence, nous sommes tes enfants, nous sommes des adorateurs, Seigneur. Tu es venu nous chercher dans notre misère, tu nous as régénérés, tu nous as donné la lumière, tu nous as donné l'amour, Seigneur. Maintenant que nous te connaissons, Seigneur, nous voulons étudier ta parole, l'utiliser le plus possible dans nos vies personnelles pour de la direction, de la lumière, et Seigneur, pour modifier aussi nos comportements, nos pensées, notre langage et tout notre être. Alors, Seigneur, que ton esprit, ce matin, soit manifeste parmi nous et que ce qu'on va étudier, Seigneur, non seulement qu'on l'entende avec nos oreilles physiques, mais qu'on l'entende également avec nos oreilles spirituelles et que tous les principes qu'on va étudier à l'intérieur de ce chapitre, de ce passage, Seigneur, puisse nous être profitable, nous faire grandir, nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Alors, on te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé le message aujourd'hui « Les trois stades de la chute tragique de l'homme ». Alors, quand on est... Il y a des fois, comme j'expliquais à Lucie, des fois quand on prépare des messages... Il y a des fois qu'on étudie, on regarde le passage et on dirait la structure de la façon dont on va l'emmener nous arrive tout de suite. D'autres fois, ça me fait penser un petit peu à... j'ai pas beaucoup d'expérience d'enfanté, là, mais des fois, au point de vue intellectuel, je pense que ça nous amène une façon de voir le texte qui... On a de la misère à sortir la structure, le squelette, autrement dit, avec lequel on va présenter le texte. Et ça a été le cas cette semaine. J'ai travaillé une journée de temps à lire, puis tout ça, puis l'autre journée, là, je me dis, comment on va emmener ça? Puis d'un coup, à un moment donné, il y a eu, la lumière fut. Et la manière que je vais vous l'amener ce matin, c'est que je vois trois stades de la chute tragique de l'homme dans ce chapitre-là. Je vois le stade, premièrement, de la conception. Alors, pour qu'il y ait eu une chute, il a fallu que quelqu'un qui pense à faire tomber d'autres personnes. Alors, le stade de la conception, verset 1. Le deuxième, c'est le stade de la concertation. Alors, c'est sûr qu'il y avait un plan, mais il fallait qu'il convainque Ève et Adam de manière à ce qu'ils finissent par avoir concertation, ça veut dire on se met tous d'accord, pour faire un geste en particulier, c'est celui de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, les versets 2 à 6, c'est vraiment le stade de la concertation. Et le verset 7, c'est vraiment le stade de la condamnation. Parce que dès qu'ils ont fait, qu'est-ce que Dieu leur avait défendu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, et ils ont eu honte. Et on voit vraiment, carrément, ces trois stades-là dans la description de la chute de l'homme dans les 7 premiers versets du chapitre 3. Juste pour faire une révision à venir jusqu'ici, tout ce qu'on a vu depuis le début, parce qu'il y a comme une suite dans tout ça, et on a besoin de la voir. Alors, les deux premiers chapitres de la Genèse avaient pour but de nous préparer la scène pour l'observation de ce qui devait être la pire tragédie de l'humanité, l'entrée du péché dans le monde avec ses conséquences désastreuses. Alors, on a d'abord assisté aux merveilles de la création, de l'univers et de la terre. Puis, le Seigneur nous a fait observer les différentes merveilles de la création. La création à partir de rien, donc ex nihilo, en l'espace de 6 jours, littéraux de 24 heures. La création de la lumière, de l'atmosphère, de la terre, des mers, de la verdure, des corps célestes, des oiseaux, des poissons, de tous les animaux et finalement l'homme. Alors on voit Dieu fait la mise en scène. Il nous montre comment tout cela est arrivé et il nous a mis les éléments en place. Alors le Seigneur poursuit son œuvre en plaçant l'homme dans le paradis terrestre, on avait vu ça dans notre leçon précédente, dans lequel absolument tous ses besoins étaient comblés. Mais Dieu avait placé l'homme sous probation, comme on avait vu dans le chapitre 2, les versets 16 et 17 du chapitre 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres. Ce qui est intéressant, là, quand on veut comprendre et bien comprendre le chapitre 3, c'est de comprendre en anglais, on appelle ça wording, les mots exacts que le Seigneur dit, et après ça, comment le malin a joué avec les mots de Dieu, comment Ève aussi a joué avec les mots de Dieu. Alors, plus on se souvient des mots exacts que le Seigneur a dit, plus on est en mesure de voir comment les autres, Satan et Ève, ont joué avec les concepts divins, la parole de Dieu, autrement dit. Alors, ici, dans le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » On va voir tantôt comment Ève a tordu ça. Dans le verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Remarquez bien aussi ce qu'il dit. « Car le jour... » Il ne dit pas, à un moment donné, si tu manges ça un peu plus tard, on verra ce qui va arriver. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on voit ça dans le verset 7. Dans le verset 7 du chapitre 3, on voit qu'ils ont pris conscience de leur état de pécheur. On voit qu'ils ont considéré qu'ils étaient nus. On voit qu'ils ont eu honte. On va voir plus tard qu'ils ont cherché à s'excuser, à cacher leur péché, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand Dieu dit « tu ne mangeras pas de l'arbre », il n'a pas dit « ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », et il a dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Et dans le verset 7, on a vu qu'au verset 6 du chapitre 3, Ève a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en a donné à son mari, et les deux en même le jour. C'est ça que le Seigneur a dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Plus on voit les mots exacts du Seigneur, plus on voit aussi comment Satan a joué avec les concepts divins, avec les paroles divines. Alors, on a vu aussi la semaine dernière que Jéhovah Elohim, alors on se souvient qu'à l'intérieur du chapitre, le mot « l'Éternel Dieu », les deux mots sont toujours là, côte à côte, et dans l'hébreu, c'est « Jéhovah Elohim ». Où Yahweh Elohim compléta ses merveilleux dons. Qu'est-ce qu'il avait donné à l'homme en plus de tout ce qu'il avait reçu depuis qu'on... Il avait donné l'autorité, qu'on a vu la semaine dernière, lui avait donné la femme, et lui avait donné aussi l'institution du mariage. Alors, normalement, toute la mise en scène est en place, on voit que l'homme ne manquait d'absolument rien, qu'il avait eu... vraiment un très grand nombre de bénédictions et que maintenant il est placé face au test de sa probation. Alors la mise en scène est comme complète. On va voir maintenant comment l'homme a chuté et comment il a introduit le péché dans le monde avec des conséquences d'une gravité insondable. Voyez-vous, quand Adam et Ève se sont rendus compte de leur péché, bien sûr, est-ce que premièrement, ils se sont rendus compte qu'en chutant, ils faisaient tomber l'humanité? Ça, c'est de un. Et de deux, est-ce qu'ils ont compris vraiment ce que ça voulait dire la mort? La mort physique, la mort éternelle, la mort spirituelle. Et toutes les conséquences Quand je dis ici les conséquences d'une gravité insondable, je pèse mes mots. Comment, si Adam et Ève avaient eu une conscience, disons, parfaite de tout ce que c'était pour amener dans l'univers, sur la Terre, au cours des siècles, on parle de plusieurs centaines d'années, là, imaginez-vous toutes les souffrances reliées à la guerre, à la maladie, à toutes les formes de péché, à la violence. C'est sûr qu'il ne pouvait pas nécessairement le voir tout de suite. Probablement qu'il l'a vu plus tard. Alors, c'est vraiment les conséquences d'une gravité insondable. Et en introduisant le péché dans le monde, il introduisait tout un cortège. Un cortège, on sait ce que c'est quand il y a une mortalité. Hein, la personne en avant, puis tout le monde qui suit. Il y a un cortège de misère qui est introduit par le péché. La souffrance, sous toutes ses formes, on les vit encore, les conséquences du péché d'Adam et Ève. Et les souffrances, on le sait, quel homme n'a jamais souffert de sa vie? Même l'homme le plus riche de la terre, même l'homme le plus célèbre, même l'homme le plus comblé au point de vue matériel, souffre quand même, parce que ça fait partie du sort de l'humanité. Alors, la souffrance sous toutes ses formes, et on est loin ici de peser ce que ça veut dire, la souffrance sous toutes ses formes, durant tant de siècles. On est loin. Et, après ça, la maladie, la guerre, si on pouvait s'imaginer toutes les... Quand on voit des films de guerre, là, c'est-tu si épouvantable? Des fois, il y a des affaires qu'on voit, on se dit, comment l'être humain peut-il faire de pareilles choses à d'autres êtres humains? L'être humain devient une véritable bête. Alors, tout ça, c'est des conséquences de la chute, la violence. Maintenant, on la voit de plus en plus de nos jours. On l'a vu au cours des siècles et on va continuer de la voir. Et enfin, ce qui était vraiment grave, la mort physique, alors qu'il ne serait pas mort, ni lui, ni sa femme, ni sa postérité, s'il avait continué dans l'obéissance. Il a introduit la mort physique. Je regardais hier les nouvelles, Céline Dion qui a perdu son mari, et j'entendais aux nouvelles hier qu'elle a perdu son frère en plus. Alors la mort, on dirait quand elle frappe fort. Alors j'imagine perdre ton mari et ton frère dans la même semaine, parce qu'elle n'avait même pas fini l'enterrement de son mari, qu'elle déjà allait au salon pour voir son frère. La mort est introduite dans l'humanité et on connaît tous les douleurs qui sont amenées par la mort dans nos vies. Mais la mort physique, ça aurait été une chose, mais la mort spirituelle, c'était à partir du moment que tu pèches contre Dieu, nos premiers parents ont péché contre Dieu, la communication avec Dieu, la mort spirituelle qu'on appelle quand l'Éphésien nous dit « Vous êtes mort ». Alors, quand quelqu'un lit ça, en le lisant, il est vivant, il pourrait se dire « Ben voyons donc, je ne suis pas mort, je suis vivant, je suis capable de lire le texte. » Oui, tu es mort, tu es vivant physiquement, mais tu es mort spirituellement. La communication avec ton Créateur est coupée. Elle a besoin d'être restaurée sinon. Et il y a la fameuse mort éternelle qui est l'enfer. Si tu décèdes dans cet état-là, c'est que tu vas aller passer l'éternité. Alors, est-ce que Adam percevait pour lui-même, pour sa femme, pour sa descendance, pour ses enfants, pour l'ensemble de l'humanité de tous les siècles, y compris la mort éternelle? Comment une personne peut-elle saisir toutes les horreurs qu'il y a incluses dans la mort éternelle? Aucune personne, même nous-mêmes qui connaissons les Écritures, parce que c'est des notions dont on a certaines réalités physiques, certaines notions intellectuelles, mais on est loin de saisir vraiment ce que ça veut dire. Alors, le péché, la gravité du péché, l'introduction du péché dans l'humanité était au dépassait de beaucoup sa capacité de compréhension, je pense. Alors, dès le chapitre 3 de la Genèse, le Seigneur va nous présenter un autre aspect. Il va vouloir nous manifester, dès Genèse 3.15, on rentre dans Genèse 3, là, on a les 7, Genèse 3.15, il va nous présenter la solution que lui amenait dans la promesse du Messie à venir, qui, lui, serait capable de ramener l'homme, ramener la communion que l'homme a avec Dieu et lui redonner la vie éternelle. Alors vraiment la promesse du Messie, on va aller la lire, on va la lire tout de suite, Genèse 3.15. quand le Seigneur dit « Je », c'est Dieu qui parle, « mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Bien sûr, on ne rentre pas dans tout le développement de ce verset-là aujourd'hui, mais on va le faire quand on va arriver à ce chapitre-là. Mais dans le fond, c'est vraiment la promesse du Messie qui serait capable de rétablir la communion avec Dieu et de donner une solution au péché. Maintenant, on sait que depuis quelques années, les libéraux, ceux qu'on appelle les libéraux, on ne parle pas du parti politique, là, on parle des libéraux, de ceux qui sont toujours en train de douter de tout de la Bible, ont beaucoup écrit ces dernières années. Si quelqu'un prenait tous les commentaires qui ont été écrits sur Genèse au cours des dernières années, bien sûr, il y en a des bons, il y en a des conservateurs, mais il y en a aussi qui ont tordu les Écritures. Et une des choses qu'ils cherchent à faire avec ce passage-là, c'est de douter de l'historicité des personnes d'Adam et de Ève. Autrement dit, ils disent, c'est pas des personnes, c'est des principes. On est tous des petits Adam, des petites Ève. Et ils essayent d'enlever l'historicité du personnage, comme ils sont en train d'essayer de faire la même chose avec Jésus-Christ. Je me souviens, une fois à Québec, on était sur la rue, on faisait de l'évangélisation, il y a un jeune homme qui travaillait dans le commerce juste à côté de moi. Un moment donné, il sort, il devait être en brique. Il sort, il vient me voir, puis il dit, « Toi, tu prêches sur Jésus-Christ? » Il dit, « Il n'a jamais existé, Jésus. » Je dis, « Hein? » Je dis, « Là. » Fait que là, mais qu'est-ce qui m'a amené comme argumentation? C'est des affaires qu'il a entendues sur Internet, ou qu'il a eu des programmes de télévision, ou qu'il a lu quelque part. Alors, c'est des choses, c'est pas des idées qui sont en l'air, ça circule beaucoup, et ça finit par influencer beaucoup les gens. Maintenant, si je vous disais, je vous mettais au défi ce matin, prouvez-moi l'historicité d'Adam et Ève par les Écritures. Est-ce qu'on sera capable de le faire? Les Écritures elles-mêmes ont toujours des réponses aux questions ou aux faussetés que les libéraux cherchent à introduire dans la théologie. Il y a au moins trois passages. Je vais vous les nommer. Romains 5:12. On va aller les voir, ça va avoir la peine, parce que c'est des passages qui peuvent nous aider vraiment à comprendre certains principes d'une grande importance. Romains 5:12. C'est pourquoi, ici c'est Paul qui écrit, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, il parle de qui là? Il parle d'Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alors, c'est pas un principe, c'est une personne. Par un seul homme. Un homme, ce n'est pas un principe, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un symbole. C'est un homme. C'est ce que Paul dit. Et on dit que les Écritures sont inspirées de Dieu. Alors, c'est un passage qui démontre l'historicité d'Ève et d'Adam. Il dit, « Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Maintenant, un autre passage. On va en voir deux ou trois, puis après ça, on va commencer notre étude. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Ici, encore Paul qui parle, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. » Paul parle, Paul, il connaissait les Écritures. Il dit, « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » 1 Timothée, chapitre 2, versets 13 et 14. On va en voir plusieurs parce que c'est important d'être capable de dire à des personnes qui nous amèneraient ce genre de raisonnement-là, qui sont dans les patates, que les Écritures elles-mêmes sont capables de démontrer l'authenticité. Donc, 1 Timothée, chapitre 2, versets 13 et 14. « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Et un autre passage, et celui-là n'est pas le moindre, « Christ lui-même, Jean, chapitre 8, verset 44. Jean, chapitre 8, verset 44. Et on pourrait probablement aller beaucoup plus loin, c'est juste une mention que, dans le fond, quand quelqu'un nous dit « Ah, ben on ne peut pas prouver que c'est des véritables personnes, c'est des symboles, c'est... » Alors, on peut démontrer par les Écritures, dans le Nouveau Testament, parce qu'on dit toujours qu'une façon intelligente d'interpréter les Écritures, c'est d'interpréter le Nouveau à la lumière du Nouveau, l'Ancien. Alors, Paul lui-même comprend que Adam et Ève sont des personnages historiques. Alors, Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » Et justement, aujourd'hui, on va regarder, quand il dit qu'il est le père du mensonge, on va voir son mensonge et qui a fait tomber. Alors, le geste qu'il a posé a eu des conséquences extrêmement graves. Alors, cette historicité des personnages d'Adam et Ève, c'est d'une importance primordiale si on veut bien comprendre et bien interpréter d'autres passages. Quand on nous parle du second Adam, dans les Écritures, dans 1 Corinthiens, comment on peut faire le parallèle entre le premier et le deuxième, le premier homme et le deuxième homme que Dieu a permis qu'il vienne, Jésus-Christ incarné dans une chair d'homme. Si on comprend pas que c'était vraiment un homme, le parallèle ne tient plus. Alors, par un homme, le péché est entré dans le monde et a fait chuter l'humanité. Par un homme, le Seigneur a fait sortir l'homme de son, du moins une partie de l'humanité, de son problème. Alors, on va regarder aujourd'hui la chute, le stade de la conception, verset 1, et le premier mot qui nous est dit dans le verset, le serpent. Alors, on peut dire, est-ce que c'était un animal, ou est-ce que c'était Satan lui-même déguisé? La plupart des auteurs qui sont conservateurs disent que c'était un véritable animal, mais qui était habité par le diable, le Satan. Alors, ça dit dans le texte, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors, on voit déjà une caractéristique du malin. Il est rusé. Alors, il faut toujours se méfier des personnes rusées, surtout quand c'est des personnes qui cherchent à vous inciter au mal. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, voyez-vous, la première chose, la tactique de Satan, une de ses premières tactiques, c'est le questionnement. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez-vous, il est assez habile pour ne pas nier que Dieu parle, que Dieu a parlé. Mais il te pose une question. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de... Remarquez ce qu'il dit. C'est important les mots. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il nie pas que Dieu a parlé. Première habileté, la ruse. Il dit pas Dieu, ah ben Dieu, ça, voyons, donc tu es allé chercher ça que Dieu a dit ça. Il nie pas, mais après ça, il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce que c'est ça que Dieu avait dit? Non. Alors, déjà, le questionnement et l'introduction d'une fausseté. Parce que c'est pas ça que Dieu avait dit. Mais, alors, la Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance quant à la personne qui a conçu le plan de faire chuter l'homme. Le texte nous dit le serpent. C'était Satan lui-même incarné dans une chair d'animal. C'était une créature. Parce qu'un serpent, parce que, voyez-vous, où on voit que c'est une créature, le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel avait fait. Donc, c'était... Et Satan lui-même aussi était une créature. Donc, la créature de Satan incarnée dans une chair d'animal. Alors, l'ennemi de l'âme des hommes est une créature déchue. Si je vous disais, allez dans les Écritures me démontrer là où on parle de la chute de Satan. Alors, il y a deux passages principaux qui sont faciles à retenir à cause des numéros de chapitres. Ésaïe 14, puis Ézéchiel 28. Alors, si vous voulez vous souvenir de ça, vous retenez ces deux passages-là, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, où vous avez une description dans les Écritures de la chute de Satan. Alors, pour que Satan, qui était une créature parfaite, créée par Dieu, on dit de lui qu'il était un archange qui marchait sur les pierres devant Dieu. Alors, il était dans une position, il était l'ange le plus béni, le plus intelligent, le plus tout ce que tu voudras. Alors, mais il a fallu que lui tombe pour qu'il veuille détruire la création de Dieu, de l'homme. Alors, Ésaïe 14, versets 12 à 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Si vous compteriez le nombre de « je » là-dedans, il dit « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône, je m'assiérai sur la montagne, je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » 5 fois à l'intérieur d'un verset, je, un peu comme on dit des fois en québécois, me, myself and I. Alors, il était tellement, comme on pourrait dire, avantagé par la nature, et son intelligence était tellement grande qu'il a voulu se prendre pour Dieu lui-même. Parce qu'il n'a pas dit, je veux remplacer Dieu. Il dit, je serai semblable au Très-Haut. Alors, lui, qui était une créature, même avantagé, il était vraiment loin d'être aussi parfait que l'Éternel. Loin de là. Autre chose que les Écritures nous apprennent dans Ézéchiel 28, c'est que c'était un être d'une grande beauté, d'une grande intelligence et d'une grande habileté. Alors, on va lire le texte 12 à 19, Ézéchiel 28. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras... Ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, voyez-vous, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Voyez-vous, c'était un habile musicien. Il était couvert de pierres précieuses. Il était extrêmement privilégié. Verset 14. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Ça veut dire qu'il y avait un accès à Dieu directement dans sa proximité. Alors, il était plus que béni. Verset 15, « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. » Alors, vraiment, on voit son origine. Alors, l'ennemi de l'âme, des hommes, est déjà vaincu, déjà jugé, déjà condamné. Dans le passage, on peut apprendre beaucoup de choses sur lui en observant ses méthodes. Alors, ses méthodes ont plusieurs caractéristiques. Rusée. Alors, comment on voit sa ruse, il approche la femme alors qu'elle est seule. Ça, c'est une tactique qu'il peut utiliser quand on est seul, le Seigneur, pas le Seigneur, mais le malin. Parce que, un peu comme un chrétien qui se dit chrétien, mais qui veut vivre sa chrétienté tout seul dans son coin. Il va être plus, il va être plus porté aux attaques du malin. Alors, elle était loin de son mari. Et autre chose qu'on se doit de remarquer, c'est qu'elle était proche de l'objet que Dieu avait défendu. Pour qu'elle prenne son fruit de suite, ça veut dire qu'elle était proche. Alors, premièrement, elle était loin de son mari. Deuxièmement, elle était seule. Troisièmement, alors, il a choisi son moment, comme il choisit probablement ses moments aussi quand il est question de nous attaquer. Alors, ces méthodes, ça semble inoffensif. Si je vous pose une question, c'est-tu quelque chose d'agressif? Non. Il arrive pour sa petite question. Dieu a-t-il réellement dit? Alors, ces méthodes sont aussi ambiguës parce que sa question manque de clarté et ajoute à ce que Dieu a réellement dit. Dieu avait dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à Satan, à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan, lui, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, voyez-vous? Faut voir sa tactique. Il change les choses que Dieu a dit. Et ça a des conséquences. Alors, sa ruse se révèle dans les faits suivants. Il reconnaît que Dieu a parlé. Il ajoute à la parole de Dieu. Il nie ensuite la parole de Dieu. On va voir que plus tard, il va dire, « Vous ne mourrez pas alors que Dieu dit, tu mourras certainement. » Alors, et après ça, il questionne les motifs de Dieu. Ben oui, mais c'est parce que Dieu, il s'est gardé des choses pour lui-même. Il n'a pas voulu partager telle affaire. Il laisse sous-entendre des choses sur les attributs de Dieu lui-même, sur la personne même de Dieu. On voit qu'il va le faire avec habileté. Et aussi, il promet des bénéfices. Alors, c'est toujours sa même façon. Il reconnaît que Dieu a parlé, il ajoute à la parole de Dieu, il nie ensuite la parole de Dieu, il questionne les motifs de Dieu, et ensuite, il promet des bénéfices. Les bénéfices, l'ouverture des yeux, vos yeux seront ouverts, et être comme Dieu. Parce que dans le texte original, il y en a qui ont traduit « vous serez comme des dieux ». Mais dans l'original, c'est « vous serez comme Elohim ». Le mot « Elohim », il y a deux façons de le traduire. « Elohim », c'est un nom de Dieu qui est au pluriel. Mais tu peux traduire « les dieux » parce que le fait qu'il est au pluriel, si tu dis « les dieux », la plupart des auteurs, dans beaucoup de versions, ils ont gardé le mot « Elohim » avec la traduction du mot « Dieu » au lieu de « des dieux ». Alors, c'est important de le savoir aussi. Alors, à remarquer la direction de sa ruse. La manière de travailler du malin, c'est toujours, il travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, il parle du corps, c'est bon à manger. Il parle des émotions, c'est un plaisir pour les yeux. Il parle de l'intelligence pour rendre intelligent. Mais dans le fond, il part de l'extérieur et il travaille vers l'intérieur pour faire changer quelque chose en toi. Alors que la manière de travailler de Dieu est exactement l'inverse. Dieu part de l'intérieur pour changer l'extérieur. Voyez-vous? C'est important aussi de saisir ça. Alors, les tentations de Satan sont toujours mensongères, avec beaucoup de subtilité, malicieuses, parce qu'on a vu que le but de tout cela, c'était de faire tomber Ève et Adam, et très certainement que le malin devait être conscient qu'en faisant tomber le premier couple humain, il faisait tomber l'humanité entière. Lui, il savait ce qu'il faisait. Peut-être que Ève et Adam ont plus ou moins su ce qu'ils faisaient, ont été séduits, mais lui, il savait ce qu'il faisait. Alors, on va regarder le deuxième point, le stade de la concertation. Parce que t'as beau avoir un plan, mais quelque part, faut que tu le mettes à exécution. Puis, les personnages que tu veux influencer, faut que tu les amènes à une certaine action vers laquelle tu veux les amener. Alors, quand on lit les versets 2 à 6, « La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. » Est-ce que ça vous allume une lumière? Est-ce que Dieu avait dit, « Vous n'y toucherez point? » Elle va dire, tu n'en mangeras point. Puis elle dit vous n'en, mais Dieu, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc elle dit toutes les arbres on peut en manger, excepté celui-là. Mais elle a dit, mais Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Donc encore une autre tactique ajoutée à la parole de Dieu. Et a dit de peur que vous ne mouriez. Est-ce que c'est ça que Dieu avait dit? De peur que vous ne mouriez. En voulant dire, mais si tu en manges, ça pourrait arriver que tu meurs, mais ça pourrait arriver que tu ne meurs pas. Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Tu mourras certainement. En ce jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, verset 4, on voit que la brèche qu'il avait faite, elle fonctionne, parce qu'il dit, le serpent dit à la femme, voyez-vous, après qu'il a fait son... il a semé sa semence, là, il intervient, mais avec beaucoup, beaucoup d'assurance. Il dit... Le mot alors, c'est pour nous faire prendre conscience du moment. Après qu'il a eu semé son doute, il dit, vous ne mourrez point. Là, il est vraiment hyper audacieux. Parce que là, il contredit carrément ce que Dieu a dit. Dieu a dit, le jour où tu vas mourir, tu mourras. Et lui, il dit, ben non, tu mourras pas. Et là, voyez-vous, dans le verset 5, c'est là qu'il fait ses allusions à Dieu lui-même, comme de quoi Dieu a voulu les priver de quelque chose qu'il aurait pu leur donner, mais c'est comme s'il veut démontrer que Dieu est jaloux, puis il n'a pas voulu donner ça à l'homme, c'est comme s'il avait voulu le priver de quelque chose qu'il aurait pu y donner, mais non, je veux garder ça pour moi. Vous voyez, il fait des allusions au Seigneur lui-même. Alors on voit que la séquence, quand il nie la parole de Dieu, ou qu'il contredit la parole de Dieu, suite après, il amène un autre élément dans la tentation, et je suis convaincu que les éléments qu'on voit dans le texte ici reviennent dans toutes les tentations qu'on a. Parce que, il dit, là, après qu'il t'a fait tomber, après qu'il t'a comme convaincu que la parole que Dieu a dit, lui dit le contraire, là, il va questionner la personne même de Dieu. Là, on voit l'audace épouvantable du malin. Parce qu'il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez, dans le fond, si on prend la traduction, vous serez comme Elohim, le Dieu trinitaire. Elohim, pourquoi on le met au pluriel? C'est parce que ça fait référence au Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, connaissant le bien et le mal. Alors, il leur fait prendre conscience que Dieu... c'est comme si Dieu avait voulu, voulu démontrer que Dieu était égoïste et qu'il n'avait pas voulu leur donner quelque chose qu'il aurait très bien pu leur donner. Ah, là, c'est comme si, en voulant dire, tu as les yeux fermés, mais là, si tu m'écoutes, ils vont s'ouvrir. Et puis, tu vas être comme Dieu, puis tu vas connaître le bien et le mal. Alors, verset 6, on voit que toute sa tactique a fini par donner un fruit. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc, elle commence où? Le côté sensuel, le côté visible, le côté extérieur de la personne était bon à manger, agréable à la vue. Ah, regarde ça, regardons ça, c'est beau, là. Regardons ça, c'est bon. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais comment ça qu'elle savait ça? C'est parce que c'est ça que Satan y avait dit. Elle prit de son fruit et en mangea. Et remarquez une autre caractéristique du pécheur, il ne se contente jamais d'être péché tout seul, il veut entraîner d'autres pécheurs à sa suite. Et il en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les deux ont tombé, tous. Alors, se concerter, ça veut dire projeter ensemble, en discutant, et décider après réflexion. Alors, après tout, là, une des plus grandes erreurs qu'on peut faire avec Satan, c'est de discuter avec lui. Parce qu'il est beaucoup plus intelligent que nous. Beaucoup plus intelligent que nous. Alors, c'est ce qui se passe ici. Il y a d'abord la conversation. Ensuite, la contestation. Et ensuite, la concession. Et ensuite, la contagion. Les voyez-vous, les quatre éléments? La conversation. Il ne faut pas que tu lui laisses une chance, parce que si tu discutes avec lui, tu vas perdre. La deuxième, la contestation. Il va t'amener à « Ah, ben peut-être qu'il a raison. Peut-être que le péché qu'il me présente comme étant Ah, oh, ben là, après ça, ben là, tu vas mettre Dieu en question. C'est sûr qu'après ça, tu vas vouloir te justifier, puis tu vas dire, ben là, peut-être qu'il n'existe pas. En fin de compte, Dieu, à fin de compte, je peux faire ce que je veux, puis je vais jouir de la vie, etc. Et ça finit par la contagion. La Bible, le Romain nous apprend que l'être humain, quand il tombe dans le péché, ne se contente jamais et veut toujours entraîner d'autres personnes avec lui. Alors ici, on voit un principe aussi que souvent, Satan peut se servir de nos proches pour nous emmener dans le mal. Alors la conversation, versets 2 et 3, la femme répondit. Vois-tu, Satan parle, tu réponds. Le seul qui était capable de répondre à Satan, c'était Jésus. Arrière de moi, et quand le malin utilisait les Écritures à faux escient, il le ramenait toujours à l'ordre. Mais nous, on n'est pas organisé pour discuter avec Satan. Alors, la femme dit, nous mangeons du fruit des arbres du Jordan, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du Jordan, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point la joue, de peur que vous ne mouriez. Un changement de sens. Alors, rien n'est plus dangereux que d'entrer en conversation avec Satan. On voit ici Ève entrer vraiment en conversation avec Satan. On constate rapidement que cette faute fondamentale l'entraînera dans les autres marches descendantes de la désobéissance. C'est comme si on verrait un escalier et on voit les autres marches descendantes de la désobéissance. Quelles sont-elles? La curiosité. Le deuxième, le vacillement. Oups, elle commence à être moins sûre de ses affaires. La troisième, le mécontentement. Si tu veux d'autres choses, ça l'implique que ce que tu as déjà, ce n'est pas suffisant pour toi, puis tu voudrais avoir plus, alors que Dieu les avait comblés à pleine capacité. Autre, c'est l'ambition, parce que Satan lui avait fait miroiter le fait que les yeux seraient ouverts, que la connaissance augmenterait et qu'il serait semblable au Très-Haut. Et ensuite, la chute personnelle, puis l'entraînement d'un autre dans sa chute. Voyez-vous? Curiosité, vacillement, mécontentement, ambition, chute personnelle, chute d'un autre avec toi. Observons quelques faits. Elle n'appelle pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal par le nom que Dieu lui a donné, mais elle l'appelle l'arbre qui est au milieu du jardin. Voyez-vous, ça, ces petits changements-là, ça a l'air innocent, mais ce n'est pas innocent. Elle voulait présenter les choses de façon autre que Dieu avait donné lui-même. Alors, elle ajoute ensuite à la parole de Dieu, en ce sens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle imite le tentateur. Elle aussi, elle ajoute à la parole de Dieu. Et en disant, vous ne toucherez point, Dieu n'avait pas dit ça, ce que Dieu n'avait pas dit. Et elle affaiblit la vérité de l'avertissement divin en faisant dire à Dieu de peur que vous ne mouriez au lieu de ce que le Seigneur avait dit si clairement, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Deuxième chose, donc on commence par la conversation. La deuxième, c'est la contestation. Donc là, le malin arrive, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Vraiment, il conteste. Dieu a dit ça, mais moi je dis. Alors, il a voulu que Ève croie lui au lieu de Dieu. Alors, après ça, c'était vraiment son questionnement sur Dieu lui-même. Deux caractéristiques des tentations de Satan. La négation de la parole de Dieu et la suggestion malicieuse quant au caractère de Dieu. Souvent, ceux qui vont faire des grosses chutes dans le péché vont chercher à... Ils vont nier la parole de Dieu, même si tu leur montres dans la Bible, « Ah oui, mais il y en a un autre qui m'a dit ça, puis j'ai lu quelque part. » Puis après ça, ils vont commencer à questionner la personne même de Dieu. Le pattern n'est pas nouveau. Quand on comprend bien Genèse 3, on peut prendre n'importe quelle tentation d'homme dans nos vies, et les mêmes éléments sont presque toujours là. Alors la négation de la parole de Dieu, il fait dire le contraire de ce que Dieu dit, et vraiment le malin suggère que Dieu a privé ses créatures de bénédictions qu'il a voulu garder pour lui. Il laisse sous-entendre à Ève qu'elle pourra connaître des plus hautes satisfactions en délices et à mort. Elle avale l'hameçon complet. C'est intéressant de voir que le mot hébreu qui est utilisé dans le verset 5 pour « des dieux », parce que moi, dans ma version à moi, c'est « des dieux », Louis Sagan traduit « des dieux », mais le mot hébreu qui est dans le mot hébreu qui est dans l'original, c'est vraiment « Elohim ». Alors, « Elohim », c'est un nom qui est au pluriel. Alors, le fait qu'il est au pluriel, il y en a qui ont voulu traduire « des dieux », mais je pense que c'est beaucoup plus proche du sens véritable du texte en disant « vous avez voulu être comme Dieu », avec un « D » majuscule. Alors, juste pour vous donner des exemples, la version Darby dit « vous serez comme Dieu » avec un « D » majuscule. La version David Martin, elle écrit « vous serez comme des dieux » mais avec un « D » majuscule, un « D » majuscule avec un « X ». Alors, « des dieux », c'est comme s'il avait voulu dire « Dieu », mais X, ça laisse sous-entendre, ça manque de clarté, ça peut vouloir dire des dieux, mais si tu mets un D majuscule, normalement, ça fait référence à Dieu, mais si tu mets un X, ben, ça fait référence au Dieu trinitaire, ça peut pas faire autrement. Alors, Martin le dit, vous serez comme des dieux avec un D majuscule, et dans la New Geneva Study Bible, you will be like God. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus fort en voulant dire qu'elle a compris que si elle prenait du fruit, elle serait comme Dieu qu'un D majuscule. Alors, Satan suggère également qu'elle sera comme Dieu lui-même. Rappelons-nous que c'est sa faute première, celle qui a provoqué sa propre chute. La chute de qui? La chute de Satan, c'est qu'est-ce qui a provoqué sa chute? Il a voulu être semblable à Dieu. Comment il a fait tomber l'homme? En lui proposant exactement la même chose que qu'est-ce qui avait causé sa propre chute. Alors, il suggère donc à Ève l'omniscience, l'égalité avec Dieu, l'autosuffisance, et que désormais, elle ne sera plus dépendante de Dieu. C'est vraiment un blasphème que d'attribuer des imperfections à Dieu, quel qu'il soit. Ça, il faut vraiment se rattacher dans le coco d'aplomb, hein? Parce que des fois, on entend des choses, des chrétiens qui parlent de Dieu avec des manières de suggérer qu'ils pourraient être méchants, qu'ils pourraient être injustes, qu'ils pourraient... C'est vraiment... Ça frôle le blasphème. Parce que les Écritures sont pleines de références aux perfections, au pluriel de Dieu dans tous ses attributs. Alors, dès qu'on commence à mettre Dieu injuste ou Dieu cruel ou Dieu tout ce que tu voudras, on est carrément dans les patates. Il faut s'en rendre compte qu'on frise le blasphème quand on fait ça. Alors, n'oublions pas non plus que attribuer des imperfections à Dieu, c'était vraiment un grand péché de mauvaise volonté et d'envie. C'est un affront d'une hauteur insondable. N'oublions pas que Satan porte le titre d'accusateur. Il ne porte pas le titre d'accusateur en vain. Dans Apocalypse, chapitre 12, au verset 10, ça dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. » Il parle de qui? Il parle de Satan. « Il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan accuse les élus, nous, il dit l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ça veut dire que c'est incessant. Si on entendait, là, si Dieu permettait qu'on entende, probablement qu'on serait mort de peur parce qu'on aurait peur. Non, il dit tout sur nous, il dit toutes les erreurs qu'on fait, il dit toutes les paroles qu'on dit, il dit tous les gestes qu'on fait. Et on aurait peur, mais à ce moment-là, quand on a peur, c'est parce qu'on enlève les yeux sur Christ et on met nos yeux sur notre nombril. Quand on se regarde nous-mêmes, on se regarde le nombril, c'est sûr qu'on joue un paquet de défauts. Puis on sait que les accusations qu'on porte contre nous, très souvent, elles sont vraies, mais on sait qu'on se doit de relever les yeux et les replacer sur Jésus-Christ. Sans ça, on risque d'avoir sérieusement peur. Alors, ici, il faut garder en mémoire trois choses concernant la manière d'agir du malin avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Trois choses. Il ajoute, il enlève, il altère. Ajouter, enlever, altérer. Altérer, ça veut dire tu lui fais dire ce qu'il n'a pas dit. Ajouter, ça veut dire tu t'en mets plus que qu'est-ce qu'il a dit. Enlever, ça là, dans tous les manuels où il y a des libéraux, c'est toujours cette tactique-là qu'ils utilisent. La tactique du malin, là, n'est pas nouvelle, puis elle ne changera jamais jusqu'à la fin de la vie sur Terre. Les hommes qui tordent les Écritures, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent à la parole de Dieu, ils enlèvent la parole de Dieu ou ils altèrent la parole de Dieu. Ces trois choses-là sont véritables dans toute tentation. Et verset 6a, la concession. Donc, on a vu la conversation, la contestation. Maintenant, on voit la concession. Qu'est-ce que Ève a fait? Elle a concédé la victoire à son ennemi. Elle dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Là, elle voit juste des avantages. Et qu'est-ce qu'elle a fait après avoir tout vu les avantages? Ce qu'elle croyait comme des avantages, elle l'a pris et l'a mangé. Alors ça, c'est la contestation. Elle a contesté, elle a chuté. Alors on peut voir les étapes de la transgression. La vision, elle vit. La séduction des sens, bon à manger, agréable à la vue. Souvent, le péché, n'est-ce pas que c'est de même que le Satan va fonctionner? Regarde, disons, on va prendre le péché d'adultère. Il va aller dans l'esprit du gars, il va dire, oh, non, ça, elle est bien belle. Elle. Bon, pas ça. Tu sais, il va te mettre à l'esprit les avantages qu'il y a. Alors, vraiment, il va travailler, il veut séduire tes sens. Il séduit d'abord la vision, les sens, et après ça, l'ambition, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle s'est dit, ben là, si je mange ça, je vais être plus intelligente qu'avant. Et ça finit par la décision. Donc, ça commence par la vision, la séduction des sens, l'ambition, et finalement, la décision, elle prit de son fruit et en mangea. Et ça ne s'arrête pas là. On apprend ici plusieurs tactiques du malin. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Quand Satan attend, il y a toujours une idée. Et maintenant, on termine par la contagion, le verset 6b. Et elle aurait pu dire, on ne prie, puis ça arrête là. Mais ça n'arrête pas là. Et elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle. Et il en mangea. Coupable aussi parce qu'il aurait dû réagir et il n'a pas réagi. Il a suivi sa femme. Alors, les Saintes Écritures vous enseignent que le pécheur ne se contente pas de se vautrer dans le péché de lui-même. Il veut inévitablement entraîner d'autres personnes avec lui, même ses proches. Romains 1, verset 32. « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Quand on approuve quelque chose, c'est une façon d'emmener des gens à ta suite, une façon d'emmener d'autres pécheurs dans le même péché ou dans d'autres péchés. Alors, le premier couple humain a chuté lamentablement, entraînant à leur tour toute leur postérité. On l'a lu tout à l'heure, Romains 5, 12, qu'à cause d'un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et le dernier point qu'on va regarder, c'est la chute, le stade de la condamnation. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, ils ont compris qu'est-ce qu'il avait fait. Alors, et ils connurent qu'ils étaient nus, alors qu'avant, il avait dit qu'ils étaient nus puis qu'ils n'avaient pas honte. Et y ayant les cousus des filles des figuiers. C'est vraiment l'image que l'homme cherche à couvrir sa faute et que l'homme cherche toujours, autrement dit, un peu le salut par ses œuvres. Ils en firent des ceintures. S'il y a des ceintures qui ne doivent pas être solides, ça doit être des ceintures qui sont faites avec des feuilles. Alors, je pense que ça vient démontrer tout le côté futile de l'homme qui cherche à se couvrir lui-même par ses propres œuvres. Alors, L'expression « les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir » constitue la première application de l'absolue vérité de l'affirmation divine, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Déjà, la conscience a été éveillée que la communion avec Dieu était finie, et déjà, il y avait une prise de conscience. Mais on va voir que là, la première prise de conscience est un certain niveau de condamnation, parce qu'on a vu que le troisième point, c'est la condamnation. Mais on va voir la semaine prochaine que quand Dieu va apparaître, et que là, il va vraiment leur faire... Autrement dit, il va taper sur le clou qu'ils comprennent encore davantage qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors ici, on pourrait dire que c'est la sentence officieuse. Ils se rendent compte par eux-mêmes qu'ils sont tombés dans le péché. Mais la semaine prochaine, on va avoir la sentence officielle. Dieu va apparaître, puis il va dire, « Qui t'a dit que tu étais nu? » Pourquoi? Puis là, il va ramener vraiment, il va taper sur le clou pour leur faire prendre conscience de la gravité du péché. Et c'est dans la même réponse de Dieu où il va introduire le Messie, la promesse du Messie à venir. Alors, la sentence officieuse tombe sur eux le jour même de leur transgression, comme promis par l'Éternel. Adam et Ève prennent simultanément conscience de leur corruption, de leur pollution, et cherchèrent à cacher leurs fautes et à fuir hors de la présence de Dieu. On voit que quand l'homme pêche, il veut toujours se cacher aux autres, aux yeux des autres, bien paraître, et il veut toujours fuir hors de la présence de Dieu. On sait que ce n'est pas possible, mais il se fait l'illusion qu'il est capable de le faire. Alors, ils virent soudainement leurs innombrables misères morales dans leur volonté d'être indépendants de Dieu, et que la connaissance que Satan leur avait promise était un fruit empoisonné, une connaissance destructrice et culpabilisatrice. Leur conscience est maintenant éveillée à la corruption de leur cœur, à la tragédie de leur condition et à leur perdition. Donc, la condamnation est vue par la réalisation de leur nudité. La connaissance est maintenant celle-ci. Ils sont dévêtus de tous leurs honneurs, de toutes les joies de leur état paradisiaque, et dorénavant sont exposés à toutes les misères auxquelles ils peuvent s'attendre d'un Dieu en colère. Le péché leur apporte la honte, la dégradation, la privation des signes d'honneur qui étaient les leurs, et la disgrâce devant Dieu et devant les anges. Ils perdent leur paix et le confort de leur âme. La condamnation aussi par la vaine tentative de se couvrir eux-mêmes. En désirant se couvrir eux-mêmes, ils démontrent l'hyper-fragilité de leur habillement. Une ceinture faite avec des feuilles, c'est pas fort. C'est pas être tiré fort pour briser ça. Alors, ils sont plus soucieux d'avoir bonne apparence devant les hommes que d'obtenir le pardon de Dieu pour leur faute. Parce qu'ils n'ont pas encore dans l'esprit de se rendre compte que, bon, on a péché gravement, il faut demander pardon à Dieu. C'est plus de se cacher qui est important. Quand on regarde les pécheurs autour de nous, quand on regarde les enquêtes à la télévision de personnes qui se font prendre les mains dans le sac, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont jamais coupables. Ah, c'est pas moi. Je suis accusé des fausses accusations. Ils veulent garder leur côté socialement bien vu. Ils veulent jamais... C'est rare qu'un homme va dire qu'il est coupable. Alors, leur tentative ne fait qu'empirer leur lamentable état. N'était-ce pas la première expression du réflexe de l'homme de chercher à se sauver lui-même? Leur réveil est des plus brutales. Ils n'ont pas encore entendu la sentence officielle de Dieu. Là, c'est la sentence officieuse, leur prise de conscience personnelle. Après, on va voir la sentence officielle de Dieu. Trois applications, très rapidement. Connaissons notre ennemi, son caractère, son activité, ses tactiques. Deuxièmement, connaissons nos faiblesses, notre imprudence avec les occasions de péché, notre capacité de se laisser séduire par les hommes et même par nos proches, d'engager des conversations avec Satan, de se laisser séduire par des promesses illusoires et aussi de ne pas croire de façon absolue à ce que Dieu a dit, de se laisser aller à la facilité et à la désobéissance, de ne pas prier assez. Troisièmement, réalisons les conséquences de la chute, perte de dignité, honte, fuite devant Dieu, tendance à vouloir nous sauver nous-mêmes, la souffrance, la maladie, les guerres, la violence, la vie dissolue, la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Que le Seigneur nous donne de haïr le péché, de le mortifier à l'aide de son Saint-Esprit, de se repentir authentiquement, d'utiliser abondamment tous les moyens de grâce, implorons sincèrement la miséricorde du Seigneur, ses grâces prévenantes et ses grâces réparatrices et de consolation dans notre marche quotidienne. Prions notre grand Dieu pour plus de connaissances sur notre ennemi Satan, sur nous-mêmes et sur les tragiques conséquences du péché, tant dans nos vies personnelles que dans la vie des hommes en général. Gloire à Dieu. Amen.